Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous? Leur demanda-t-il. Ils répondirent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Mais Jésus leur dit: Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Oui, oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit: Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit: Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand comme vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Jean 13, verset 1. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta: « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua: « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas !» Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas-là, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus en effet connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté: vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit: « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. On va prier. Merci, Père, pour ces passages de l'Écriture. Donne-nous de les comprendre et de les prendre à cœur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour cela. Amen. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette affiche. Très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous avez déjà vu cette image du monsieur qui... Voilà. En fait, c'était le... Voilà. Le pays a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Les yeux qui regardent, les doigts qui... Voilà. Oui, oui, toi. C'est une image très forte qui est utilisée pour le recrutement à l'armée lors du Première Guerre mondiale en Angleterre. Peut-être que c'est à ça qu'on pense quand on entend le mot service. Service. Il y a un besoin, il y a quelque chose qui doit être fait. Et pour ça, on a besoin de bonne volonté. Et donc, il y a un appel aux gens. C'est de, voilà, de susciter ce sens de devoir. Peut-être que c'est à ça que nous pensons quand on entend le mot service. J'aimerais vous raconter deux expériences très différentes que j'ai eues concernant le service. Il y a pas si longtemps, j'étais à une réunion de pasteurs du département pour organiser un grand événement, un grand rassemblement. Et il y avait plein de tâches qui devaient se faire, la logistique, les finances, les stands de restauration. Et donc la personne qui animait la réunion, on était, je ne sais pas, 50 pasteurs. Il a pris sa liste et il a dit, mais donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait prêt à piloter un comité pour la logistique? Et je savais ce qui passait par la tête de tout le monde, tous ces pasteurs, tête baissée. Oh, je suis déjà surchargé avec tout ce que j'ai à faire. Je ne peux pas prendre des responsabilités supplémentaires. Je ne peux pas. Donc, j'espère que quelqu'un d'autre va se porter volontaire, mais moi, je ne peux pas. Grand silence. Personne. D'accord, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour piloter un comité pour les finances? Pas un bruit. C'était gênant. Une expérience très différente, c'était d'être animateur pour une colonie chrétienne, une colonie d'été pour des adolescents 14 à 18 ans, juste pour vous donner une idée de l'esprit de service qu'il y avait à cette colonie. Il y avait des étudiants chrétiens qui ont payé pour venir à la colonie pour faire des tâches ménagères, pour faire la vaisselle, pour ranger, pour nettoyer les toilettes. Alors, ils avaient aussi un programme d'enseignement, mais en gros, ils ont payé pour venir servir à cette colonie. Et parmi les animateurs qui s'occupaient des gamins, il y avait aussi une ambiance, un esprit de service super. De sorte que dès qu'on nous demandait, tiens, il y a quelque chose de très lourd qu'il faut transporter de là à là, qui peut donner un coup de main, il y avait au moins, voilà, huit mains, alors qu'il fallait que 5 personnes. Et il faut plus de personnes pour la vaisselle ce soir. Des mains qui se lèvent, et on faisait cela avec joie. Il y avait vraiment, on ne faisait pas de la peine pour, oui, oui, oui. Alors, pourquoi ces deux expériences étaient si différentes? Ces deux expériences de service et cet appel, pourquoi si différentes? Si on est chrétien, quelle est la place du service dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une obligation? Est-ce que c'est un devoir? ou est-ce que c'est autre chose, quelque chose que je fais, voilà, de bonne volonté, avec joie? Qu'est-ce que la Bible dit sur le service? La première chose que l'on voit, et ça répond à le premier passage que nous avons lu, c'est que le service se retrouve au cœur de l'Évangile, puisque les chrétiens suivent un roi serviteur. Les chrétiens suivent un roi serviteur, le Seigneur Jésus, le roi qui est venu servir. Dans cette lecture de l'évangile de Marc, chapitre 10, Jésus, il est avec ses disciples, il est en chemin vers Jérusalem. Et Jésus vient d'annoncer qu'il sera condamné à mort, qu'il va subir des moqueries, des insultes, il sera flagellé, il sera tué. Et après 3 jours, il ressusciterait. Il vient d'annoncer ça aux disciples. Juste après, qu'est-ce que Jacques et Jean lui demandent? Est-ce qu'on peut être assis à ta droite et à ta gauche dans ta gloire, dans ton royaume? Autrement dit, quand tu viendras régner, quand c'est toi qui es le chef, nous voulons les deux positions les plus hautes dans ton royaume. S'il te plaît, Jésus. Vous croyez que si c'était eux qui demandaient en premier, peut-être que, voilà, on essaye. Peut-être Jésus va nous faire ça pour nous, parce que on a osé demander. Et Jésus le regarde avec amour, et il leur dit, vous n'avez vraiment pas compris comment ça marche dans mon royaume. Vous pensez que les gens les plus importants sont les dirigeants, ceux qui exercent de l'autorité sur les autres, et ceux qui servent, c'est les gens qui n'ont pas le choix, les moins importants, les soumis. Mais dans mon royaume, dit Jésus, le plus grand, c'est celui qui sert tout le monde. Le premier, c'est l'esclave de tous. Et puis Jésus se donne lui-même en exemple. Même moi, le Fils de l'homme, Dieu lui-même, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Donc Jésus, il renverse la vision du monde quant à l'importance, l'autorité et le service. Il bouleverse les idées des disciples. Et le deuxième passage que nous venons de lire, peut-être que vous l'avez ouvert devant vous, de l'évangile de Jean, décrit quelque chose que Jésus a fait pour ses disciples pendant son dernier repas avec eux, avant son arrestation. Il leur a lavé les pieds. Et nous voyons de la réaction de Pierre à quel point les disciples étaient étonnés que Jésus fasse cela pour eux. Il était leur maître, leur seigneur, et pourtant, il a volontairement fait la tâche la plus sale, la plus indigne qui soit pour eux. Il s'est mis en serviteur pour ses disciples, pour les rendre purs. Jésus dit, tu ne comprends pas ce que je fais pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Et je crois que plus tard, les disciples ont fait le lien entre ce que Jésus a fait ce soir-là et ce qu'il a fait à la croix. Quand il est mort à la croix, Jésus, il s'est humilié encore plus bas. Il est mort de la façon la plus sale, entre guillemets, le plus humiliante, la plus indigne qui soit, pour laver ses disciples, non pas de leur saleté physique, mais de leur péché. de leur culpabilité, de leur faute devant Dieu. Et donc le lavement des pieds, c'était un signe, un symbole de ce qu'il allait faire à la croix. C'était quelque chose que Jésus lui seul pouvait faire. Lui seul était le Fils de Dieu venu sauver le monde. Et il l'a fait une fois pour toutes. Mais vous remarquez que Jésus, il tire une conséquence secondaire, un sens supplémentaire des lavements des pieds quand il, dans ce qu'il dit après, quand il est de nouveau à table avec eux, il l'applique à eux. Et si nous sommes chrétiens, à nous aussi, il dit verset 14, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, je viens de vous donner un exemple. » Pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Jésus dit, voilà, je suis votre Seigneur, et pourtant je me suis abaissé pour vous servir, donc soyez mes imitateurs, en vous servant les uns les autres. Alors, je ne pense pas que Jésus, dans ce qu'il imaginait pour les disciples, se limitait simplement au lavement des pieds. Ça se pratique d'ailleurs dans certaines églises. On fait ce geste pour... Mais je pense que Jésus voulait dire que pensait à toutes les façons, toutes les manières que ses disciples pouvaient se servir les uns les autres. Toutes les manières. Jésus nous a donné un exemple, un modèle de notre vie communautaire. Le service mutuel. Si nous voulons suivre Jésus, être comme lui, alors nous allons désirer suivre son exemple dans ce domaine, cet exemple de service. Donc, pour moi, ça c'est la première chose que nous voyons dans la Bible concernant le service. Les chrétiens suivent un roi serviteur, le Seigneur Jésus, qui est venu nous servir. La deuxième chose que nous voyons dans la Bible, les chrétiens sont sauvés pour le service. Les chrétiens sont sauvés pour le service. L'année dernière, c'était le 500e anniversaire de la réforme protestante. Nous avons beaucoup parlé de Calvin, de Luther. Et une des choses clés, essentielles, que Luther a découvert quand il a lu la Bible pour lui-même, c'est qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. Voilà, l'Église catholique à l'époque disait qu'il fallait faire de bonnes choses pour être sauvé, pour être accepté par Dieu. Et Luther dit non, c'est par la grâce seule. Par exemple, ce passage en Éphésiens 2, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. » Luther a découvert le salut, c'est par grâce. Ce n'est pas mérité, c'est un don, un cadeau de la part de Dieu qui est reçu par la foi. On n'est pas sauvé par nos œuvres bonnes, mais en mettant sa foi en ce que Dieu a fait en Jésus, sa mort, sa résurrection. C'est comme ça qu'on devient en règle avec Dieu. Mais si c'est le cas, quelle est la place des œuvres bonnes dans la vie chrétienne? La Bible est claire aussi, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, nous sommes sauvés pour une vie riche en œuvres bonnes. Et c'est le verset qui suit. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. L'idée de création par Jésus-Christ, c'est ce qui se passe quand on devient chrétien. C'est comme une nouvelle création, et cette nouvelle, Dieu nous a créés en Jésus pour cette vie riche en œuvres bonnes. Si vous êtes chrétien, quel est le but de votre vie sur terre? Pourquoi Dieu ne vous a pas simplement enlevé directement au ciel du moment où vous avez mis votre foi en Jésus? Pourquoi êtes-vous toujours là? Parce que selon la Bible, Dieu a préparé d'avance les œuvres bonnes pour que nous les accomplissions. Maintenant que nous sommes à Jésus. Un autre passage qui montre cela très clairement, Tite 2, 14. Jésus s'est livré lui-même pour nous. Pourquoi? Afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple. Un peuple pourquoi? Qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. La raison pour laquelle Jésus a sauvé un peuple pour lui-même, pour que ce peuple soit zélé. C'est le mot zélé à accomplir des œuvres bonnes. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Pour que nous puissions être pardonnés et faire partie de ce peuple qui lui appartient et qui est zélé pour des œuvres bonnes. C'était ça son objectif, ce qu'il voulait faire quand il est allé à la croix. Créer un peuple sauvé qui met toute son ardeur à faire de bonnes choses dans le monde. Mais alors, il est facile de parler d'œuvres bonnes, de bonnes œuvres. Oui, bonnes œuvres, faire le bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une œuvre bonne? Ça ressemble à quoi? Alors, voici la manière dont je le décrirai selon la Bible. Une œuvre bonne, c'est quand, par amour, je sers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je me donne pour leur bien, pour la gloire de Dieu. Selon la Bible, c'est ça une œuvre bonne. C'est quand, par amour, on se met au service de quelqu'un d'autre, on se donne pour leur bien, pour la gloire de Dieu. Faire le bien, c'est agir pour le bien des autres. C'est les rendre service. C'est servir les autres. Et quand cela est fait par la foi, pour plaire à Dieu, quand la motivation, ce n'est pas simplement pour me donner bonne conscience, pour que j'ai une meilleure estimation de moi-même, mais pour que Dieu soit glorifié, alors c'est une œuvre bonne. Faire des œuvres bonnes, c'est servir les autres. Donc si les chrétiens sont sauvés pour les œuvres bonnes, les chrétiens sont sauvés pour le service. La vie chrétienne, c'est servir les autres pour que Dieu soit glorifié. Alors est-ce que c'est comme ça qu'on a compris la vie chrétienne? Ou est-ce qu'on pense qu'être chrétien, c'est chouette, maintenant j'ai Dieu de mon côté? Donc, il va m'aider à accomplir tous mes projets, tout ce que j'ai envie de faire dans cette vie. Comment cette vision de la vie chrétienne, comme le service des autres pour la gloire de Dieu, ça va nous influencer qu'est-ce qu'on prévoit faire cette année scolaire? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Est-ce que je cherche, comme dit Paul en Éphésiens 2, à accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour moi, ou est-ce que je cherche simplement à me servir moi-même? Donc, nous avons vu les chrétiens suivre un roi serviteur. La vie chrétienne, finalement, c'est servir les autres pour la gloire de Dieu. Et, troisième et dernièrement, il y a une diversité de dons et de manières de servir. Il y a une diversité de dons et de manières de servir. Dans le livre des Actes, qui raconte le tout début de l'Église chrétienne, il y a un épisode intéressant à l'Église de Jérusalem, Actes chapitre 6. Il paraît que les apôtres, les 12 apôtres, donc les responsables de l'Église, ont accumulé plein de responsabilités, y compris la distribution de nourriture aux chrétiens qui en avaient besoin. C'était un peu comme une banque alimentaire de l'époque. Donc il y avait des problèmes et les apôtres se sont rendus compte qu'il ne pouvait pas tout faire et bien faire. Et donc, que font-ils? Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions, littéralement pour servir à table. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement, littéralement au service de la parole. Donc, quelle est leur solution? C'est de demander à l'Église de choisir cet homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse pour reprendre la banque alimentaire. Et les apôtres vont se consacrer à la prière et au service de la parole, à l'enseignement. Le problème est résolu et l'Église grandit et grandit bien. Plusieurs choses qui sont intéressantes ici quand on réfléchit sur le service. Ben déjà, les apôtres, ils ont un ministère, un service que Jésus leur a confié, de servir le reste de l'Église par la prière et par l'enseignement. Et ils se rendent compte qu'ils ne doivent pas arrêter, négliger, abandonner ce service, même pour quelque chose de très utile, très honorable, comme une banque alimentaire. Deuxième chose, ils donnent des critères pour les 7 hommes qui veulent reprendre ce travail. Ils ne disent pas, tiens, on a besoin de 7 volontaires qui se proposent, peu importe, ou alors on prend les 7 premiers. Non. Remplis du Saint-Esprit et de sagesse, il y a des critères spirituels et des critères de caractère pour ce service très pratique, très terre-à-terre. Et troisième chose, si on suit le livre des Actes, on voit qu'un de ces 7, un de ces hommes, Philippe, qui commence par gérer la banque alimentaire avec les 6 autres, devient plus tard un prédicateur de l'évangile, un évangéliste. Donc il a servi de différentes manières. Nous voyons cette idée de différents types de services, différents dons que Dieu par lequel Dieu nous équipe pour nous servir les uns les autres. Nous le voyons ailleurs dans le Nouveau Testament. Romains 12, où Paul parle de l'Église comme un corps. Nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons des dons de la grâce différentes que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qui se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, ministère veut dire simplement service, l'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un service d'encouragement, encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Différents dons, différents services. Un autre passage. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Dieu ne nous a pas créés tous pareils. Dieu aime la diversité et il a donné des dons différents à chacun pour qu'il puisse être mis au service les uns des autres. Et le mieux pour l'Église, c'est quand il y a une correspondance harmonieuse entre don et service. Il y a 2 écueils à éviter. Il y a l'écueil où les gens cherchent à servir d'une certaine manière, peut-être d'une manière qui est plus visible, plus mise en valeur, et qui ne sont peut-être pas tout à fait aptes à ce service. Ou bien l'autre écueil, quand les gens n'ont même pas l'occasion de tester ou confirmer leur don, et l'Église se prive inutilement d'un bien. Si notre motivation principale, c'est servir les autres, être utile, ça va nous aider, en fait, à servir selon nos dons. On peut se demander, mais quels sont les besoins que je vois? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais bien? Comment puis-je me rendre utile? Et en suivant l'exemple du Seigneur Jésus, commençons en cherchant les tâches les plus humbles, les moins visibles, les moins spectaculaires, mais finalement qui bénéficieront tout le monde. Alors j'aimerais terminer, non pas comme l'affiche du début, non pas en faisant appel à votre sens de devoir, mais en vous donnant une idée de toutes les possibilités, toutes les différentes opportunités pour le service. Alors, il y a des choses qui sont plutôt de l'intérieur de l'église, des choses liées au culte du dimanche, l'installation de la salle, l'équipe d'accueil, lire la Bible pendant le culte, le groupe de musique, la garderie, l'école du dimanche, soit l'enseignement ou aider, l'informatique, apporter des choses à manger ou à boire pour après le culte, la vaisselle, le rangement, passer le balai ou l'aspirateur. Il y a des tâches qui sont plus générales pour le fonctionnement de l'église, l'administration, la comptabilité, l'entretien du bâtiment, les petites réparations, le nettoyage, mettre à jour le site web de l'église, et après des choses plus ponctuelles, les événements qui demandent de l'organisation, la publicité, pour par exemple l'expo artistique, pour les soirées à thème ou les après-midi créatifs, ou quand nous avons un stand au Vigonier. Mais le service pourrait être à l'extérieur des quatre murs du local de l'église. Ça pourrait être montrer l'hospitalité, inviter quelqu'un pour un repas, se porter volontaire quand il y a un déménagement, ou aller visiter les personnes âgées dans une maison de retraite, faire du bénévolat pour une association, simplement prêter à quelqu'un une perceuse ou une machine à coudre, si besoin. Je vous raconte une petite histoire que j'ai lue cette semaine. C'était en Australie, un petit garçon dont le père avait été dans un accident de moto. Il avait des blessures assez graves. Il était plusieurs semaines à l'hôpital, puis il est rentré chez lui. Et en fait, c'était un homme assez costaud. Sa mère n'arrivait pas à le porter. Et il était immobile pendant plusieurs mois. Et le garçon, il était trop petit, il ne pouvait rien faire pour aider sa mère. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui toque à la porte, un inconnu, qui, en fait, qui se présente, dit « Bonjour, je m'appelle Len, je suis membre de l'église de la ville, église que la famille ne fréquentait pas. » Il dit « J'ai entendu que votre mari, il a été à l'hôpital, est-ce que je pourrais vous aider ?» Et pendant des mois, cet homme est venu à la maison, il a soulevé le père, il l'a mis dans le baignoire, et il l'a lavé. Et le garçon, disons, quand il a grandi, il a dit, cet acte de service qu'on n'avait pas demandé, il s'est présenté spontanément comme ça, parce qu'il a juste eu la nouvelle, ça m'a tellement marqué que c'était comme ça qu'en fait que je suis attiré par l'Évangile, lui et sa famille. Est-il possible que Dieu veut nous utiliser d'une manière similaire? Pour revenir à ces deux expériences très contrastées que j'ai mentionnées au début, ce que je veux éviter à tout prix quand je parle du service, c'est l'idée d'ajouter un fardeau à quelqu'un qui est déjà submergé par la vie, qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, qui dit « Oh, et en plus, il faut que je fasse un service quelque part !» Mais ce que je veux encourager, c'est plutôt une ambiance comme à la colonie chrétienne, où ceux qui sont convaincus de la bonté de Dieu envers nous en Jésus. Découvre la joie de servir les autres pour la gloire de Dieu. Car Jésus est notre exemple. Les chrétiens sont sauvés pour le service et Dieu nous a équipés de plein de dons différents pour nous servir les uns les autres. Prions. Père Céleste, nous voulons te louer et te remercier pour notre Seigneur Jésus. Merci pour le don suprême, le don de sa vie, qui s'est abaissé plus bas qu'on aurait cru possible pour nous sauver. Et merci pour ce lavement des pieds, cet acte symbolique qui est aussi un message pour nous, un exemple du service que nous pouvons rendre les uns aux autres. Pardonne-nous de voir quelle est la place du service dans notre vie et donne-nous de créer ensemble cette ambiance joyeuse où on se donne pour le bien d'autrui. Non pas en traînant les pieds, mais avec joie. Parce que nous voyons que ça te plaît et ça te glorifie. Et nous prions que tu pourrais nous utiliser, comme nous avons entendu l'histoire de ce garçon et la personne qui a aidé son père. Ça pourrait être quelque chose de très simple, mais ça montre ton amour, ça montre la beauté de ton évangile. Et nous voulons, oui, être messagers, porteurs de ce beau message, chacun à sa façon. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.